débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La gauche radicale s'implante un peu plus en Europe. Après la prise du pouvoir de Syriza en Grèce, l'irruption inattendue de Podemos dans le jeu politique espagnol, voici le parti travailliste britannique qui élit à sa tête un représentant historique de la lutte antilibérale. Alors Syriza remet son pouvoir en jeu à l'occasion d'élections ce week-end. Podemos prépare les législatives et les nouveaux travaillistes anglais prennent leur distance du centrisme prôné par Tony Blair. Alors tous ont une ambition clairement marquée à gauche et la volonté d'exercer le pouvoir, mais la lutte contre le capitalisme et l'économie libérale est-elle viable dès lors qu'on exerce des responsabilités gouvernementales ? Les gauches radicales en Europe peuvent-elles résister à l'épreuve du pouvoir ? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Eddy Fougier est politologue, il est chercheur associé à l'IRIS. Bonsoir Eddy Fougier.
Bonsoir.
Et puis Éric Coquerel, secrétaire national du parti de gauche. Bonsoir à vous Éric Coquerel.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que dit l'émergence sur le devant de la scène politique des dirigeants en Europe qui renoue donc avec les valeurs traditionnelles de la gauche à partir de ces trois exemples récents en Grèce, en Espagne, en Grande-Bretagne? Quel est le message des électeurs selon vous pour un premier tour de table, Éric Coquerel?
D'ailleurs, à ces trois exemples, vous pourriez rajouter le résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Parce qu'il faut pas avoir la mémoire d'un poisson rouge. Dans 3 ans, c'est pas très vieux. Donc, dans l'histoire, dans la progression, on s'aperçoit que, je dirais qu'il y a un effet de contagion positive.
Quand les scores ont baissé quand même depuis.
Oui, d'accord. Mais d'abord, je pense que l'acquis est toujours là. On le verra prochainement. Ce que je veux dire par là, c'est que les acquis des uns permettent aux autres de rebondir. Voilà, le résultat du Front de Gauche, ou même le résultat d'ailleurs de Die Linke avant, avait permis l'émergence du Front de Gauche. Le résultat du Front de Gauche a servi très certainement aussi à l'émergence de Podemos, etc. Donc il y a un effet contagion. La deuxième chose que ça dit, c'est que le libéralisme n'a pas gagné idéologiquement. C'est-à-dire que les gens éventuellement le subissent, contraints, peut-être, ils se disent même, certainement, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y a un problème d'alternative, mais tout le monde sent bien que ce système, ça ne va pas. Il est injuste, il provoque des crises économiques sans fin, il met en danger aujourd'hui la question de la paix, la question évidemment de l'environnement, donc il y a une recherche d'alternative. Et tout le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes un peu dans une course de vitesse. On est dans une situation totalement instable, où les bouleversements, à mon avis, sont à prévoir, justement du fait de cette situation. L'extrême droite a pas mal d'avance dans pas mal de pays, notamment du Nord européen, y compris en France. Mais fort heureusement, effectivement, il peut y avoir l'émergence. Nous, on est gauche radicale, tout ça me gêne un peu, parce qu'à chaque fois, ça renvoie à une marginalité.
Comment vous aimeriez qu'on
dise? Je sais pas, on peut peut-être parler de gauche réelle, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, des gens qui sont fidèles à ce que doit être la gauche, le partage des richesses, la souveraineté populaire, la coopération entre les peuples, et qui n'ont pas renoncé à transformer le système, ce qu'a aujourd'hui malheureusement renoncé à faire la les sociolibéraux, qui ne sont qu'un des rouages, comme la droite, du système. Donc il y a des politiques de rupture, tant mieux. Et par contre, effectivement, la question qu'on va voir, je suppose, dans cette émission, c'est à partir de là, comment, par quels moyens on rompt réellement.
Alors, Eddy Fougier, quelles sont les explications selon lesquelles, d'après vous, il y a cette émergence des gauches réelles en Europe?
Alors, je rajouterai un autre exemple aussi, c'est le Sinn Féin en Irlande. Donc, c'est pas nécessairement pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une Europe de plus en plus rouge. Moi, je verrais plusieurs explications. Alors, il y a du côté de la gauche de gouvernement, j'aime bien l'expression du politologue Gérard Grumberg, qui parle de fatigue du pouvoir. Effectivement, du côté de la gauche britannique, du Labour, une défaite alors qu'ils étaient dans l'opposition et que, a priori, le Parti conservateur était impopulaire. C'est un petit peu gênant. On le voit aussi un peu au sein du Parti socialiste, où il y a plus ou moins dans la tête de certains le fait que 2017 soit déjà perdu. D'où cette tentation un petit peu de se dire, on a fait des concessions par rapport à nos convictions au nom d'une efficacité. Et les performances sur le plan économique et social ne sont pas là, donc autant revenir à nos bonnes vieilles convictions. Donc les concessions, c'était Tony Blair, donc Corbyn, on a vu lors de l'université d'été de La Rochelle certains dire Taubira Premier ministre par rapport à Valls, dont les réformes ne sont pas nécessairement censées porter leurs fruits. Donc il y a cette tentation au sein de la gauche du gouvernement. Et puis il y a, je ne sais pas si c'est la gauche réelle, pour reprendre le terme de Monsieur Coquerel, mais il y a effectivement cette cette gauche qui ambitionne de refaire un peu le chemin de Syriza, c'est-à-dire de passer devant le principal parti social-démocrate, social-libéral. C'est ce que envisage Podemos par rapport au PSOE. C'est ce qu'envisage le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, par rapport au Parti Socialiste. Là, c'est compliqué. On le voit avec Podemos. Ils étaient à peu près à 28-30% d'intention de vote au début de l'année présente. Ils sont aujourd'hui à 15%. C'est assez compliqué parce que, justement, il y a le contre-exemple de la Grèce.
Alors, cette victoire d'Alexis Tsipras a laissé penser qu'un nouveau rapport de force était possible. Est-ce que son échec, finalement, oblige à penser que le projet était un rêve impossible?
Ah non, je crois que c'est pas un rêve impossible. Alors, son échec, déjà, c'est un problème pour nous. Faut le dire, faut faire de langue de bois. Hein. C'est un problème pour nous parce que je vous parlais d'un effet contagion tout à l'heure. Il est évident que à partir du moment où les nôtres échouent dans un pays à briser le mur de la troïka, de l'austérité, sont même obligés de revenir sur, en tout cas, se sont crus obligés de revenir sur leur promesse électorale. Ça peut nous toucher. Bon, fort heureusement, ce que j'observe, c'est qu'il y a peut-être une lame de fond plus puissante que ça. La preuve Corbyn. On vient de parler. Bon, on va attendre un petit peu. Vous citiez les sondages de Podemos. Au moins, constatons déjà une chose, c'est qu'il y a quelques années, la gauche que nous représentons essayait d'avoir des scores à deux chiffres. C'était ça l'idée. Maintenant, on en est à éventuellement prendre le pouvoir. Il y a donc un saut qualitatif. Bon, maintenant sur Syriza, on est dans la situation que du fait qu'ils ont accepté le mémorandum, mais on va pas se lamenter trop longtemps. Il faut savoir comment rebondir. Et comment rebondir, c'est effectivement de réfléchir à une fois que vous avez un programme de rupture, de l'austérité, du productivisme, de plus de démocratie, que vous êtes face à un mur, celui qu'a affronté Alexis Tsipras avec les exigences de Mme Merkel, aidée par Monsieur Hollande, par des pays satellites, comment vous faites? Bon, et c'est notre proposition de sommet internationaliste du plan B, je ne sais pas si vous avez suivi, qui est l'idée de se dire, les Allemands, je dis les Allemands parce que c'est eux qui dominent aujourd'hui en Europe et c'est eux qui dominent avec leur ordolibéralisme, avait un plan B, c'était le Grexit, où il menaçait la Grèce en entrant dans des négociations. Attention, on va vous sortir de l'euro. Et ce qu'on remarque, c'est que M. Tsipras n'avait pas de plan B. C'est-à-dire, il s'est retrouvé au bout d'un moment acculé, une fois qu'il n'a pas pu changer le rapport de force, sur, finalement, accepter le pire des mémorandums que la Grèce ait subi. Donc, toute la question maintenant qui nous est posée, c'est comment on est capable, justement, d'avoir des plans B capables d'emporter une adhésion majoritaire, parce qu'il faut emporter l'adhésion majoritaire, c'est pas juste de la propagande, et qui montre que nous sommes capable d'appliquer notre programme. Voilà, c'est toute la question est là, et c'est à ça qu'on va travailler dans les mois à venir.
Est-ce que le plan B, ça serait pas, comme le dit le dirigeant du Podemos espagnol Pablo Iglesias, la perspective finalement d'exercer le pouvoir qui oblige à une espèce de recentrage, de normalisation, Edi Fougier?
Ça n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous avez le pouvoir. Non. C'est ça le gros problème de cette gauche-là. Parce qu'elle va vite se heurter, Monsieur Coquerel l'a dit, à un certain nombre de contraintes juridiques. Le pacte de stabilité, le pacte budgétaire, tous les textes que cette gauche a refusé de voter.
Souvent les peuples aussi, d'ailleurs, vous remarquerez. Dans les référendums, et à chaque fois, on leur a fait ingurgiter une fois qu'ils ont refusé ces traités.
Oui et non.
Le traité constitutionnel européen était un exemple.
Certes. Mais le traité constitutionnel européen, le débat, on va pas refaire le débat, mais le débat portait en partie sur des choses qui existaient depuis 57.
Enfin, il a été refusé.
Oui.
D'accord.
Mais alors... donc il y a cette contrainte qui est assez lourde, a fortiori pour les États qui ont demandé de l'aide au mécanisme de solidarité européen, parce que là la conditionnalité est très compliquée. Mais il y a d'autres contraintes. Il y a aussi la contrainte de nature politique, institutionnelle, parce qu'on le voit avec Podemos, s'ils veulent arriver au pouvoir, ils sont obligés d'avoir des alliances, donc des compromis avec le PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, alors que il préfère aujourd'hui se différencier de ce parti et passer pour un parti beaucoup plus radical. Donc ça, c'est aussi une contrainte. Et puis, je dirais, ça ne va pas faire plaisir nécessairement à Monsieur Coquerel, mais il y a certainement une contrainte d'opinion aussi. Parce que, sur beaucoup de sujets, l'opinion ne rejoint pas nécessairement, elle va rejoindre peut-être l'esprit, c'est-à-dire le refus d'une société qui se délite, une société où les inégalités augmentent et où la démocratie n'est pas considérée considérée comme réelle, pour reprendre le terme des indignés en Espagne, mais sur beaucoup de sujets, l'opinion, on le voit sur l'affaire des migrants, ne suit pas cette gauche radicale ou réelle. Donc ça fait beaucoup d'obstacles avant de pouvoir exercer le pouvoir. Oui. Et une fois que cette gauche est au pouvoir, on l'a vu avec Alexis Tsipras, c'est très compliqué parce que il y a certes les Allemands, mais il y a tous les autres de la zone euro, et puis il n'y a pas qu'Angela Merkel. L'un des opposants les plus fermes à Alexis Tsipras, c'était le SPD, les sociaux-démocrates allemands.
Alors, je repose la question un petit peu différemment pour Éric Coquerel. Est-ce que adoucir le ton, renoncer à la radicalité, on va dire, est-ce que c'est le prix à payer pour espérer devenir un gouvernement crédible?
Oui, mais le problème, c'est pas d'être un gouvernement crédible, c'est de gouverner pour changer les choses. Si c'est gouverner pour, au bout d'un moment, être obligé d'accepter le fameux Tina, il n'y a pas d'alternative de Madame Merkel, Madame Thatcher, c'est un lapsus révélateur, à quoi ça sert? On n'est pas au pouvoir pour être au pouvoir, on est au pouvoir pour transformer les choses. Moi, je crois pas à cette adhésion des peuples. Encore une fois, et c'est important, si vous regardez les différentes consultations qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, vous apercevez que à chaque fois qu'on a présenté des traités, ils sont risqués rarement au référendum. Très souvent, les traités ont été battus. En Irlande, on les a obligés à voter je ne sais pas combien de fois pour finalement, avec un chantage éhonté, les faire accepter. Ça a été le cas en France, je l'ai dit, ça a été le cas aux Pays-Bas avec le traité constitutionnel européen. Donc je crois pas à cette idée qu'il y aurait une adhésion des peuples et des opinions à ces traités européens. Je crois plutôt que on veut nous forcer à croire que finalement il n'y a pas d'autre solution. Voilà, il y a une espèce de mur de l'illusion. Et c'est d'autant plus un mur de l'illusion, c'est que si leur politique encore marchait, si, par exemple, les mémorandums qui étaient appliqués à la Grèce fonctionnaient, on pourrait se dire c'est injuste, c'est terrible pour les peuples, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Depuis que ça a été appliqué en Grèce, les déficits ont explosé, les richesses grecques, et là ça peut être le cas bientôt avec le Pirée, les aéroports, ont été bradés, donc ne servent plus l'intérêt général, et on sait que les revenus et le produit intérieur brut grec a absolument décliné, et c'est vrai dans d'autres pays, c'est pas seulement la Grèce. Donc ça ne fonctionne pas, et à partir du moment où ça ne fonctionne pas, ce système ne s'en sortira pas ainsi. Ça, c'est absolument certain. Et toute la question maintenant, c'est de savoir si nous sommes capables de proposer une alternative qui est celle, justement, d'une coopération entre les peuples pour plus de progrès humain, qui répartit les richesses, parce que je vous rappelle que nous n'avons jamais produit autant de richesses en Europe que celle qui est produite actuellement, et que le gros problème, c'est qu'il y a une captation de ces richesses par les profits, et notamment la finance, bon, ou au contraire, si malheureusement, les issues vont être du côté de ceux qui nous proposent des solutions nationalistes, xénophobes, vous voyez de qui je veux parler, notamment Mme Le Pen en France. Bon, le fait que Monsieur Tsipras, à mon avis, je ne crois pas que son échec était programmé. Je vous rappelle que vous avez raison de dire que selon les systèmes électoraux, c'est plus ou moins dur. En Grèce, il a pu prendre le pouvoir avec 37% des voix. Nous, c'est un problème parce qu'on est dans le système de la Ve République qui nous contraint. Mais il a agi intelligemment avec un sondage, avec un référendum qui lui a donné un score absolument historique avec une participation sans égale. Donc, il avait le mandat populaire pour faire autrement. Et là où le moment où ça disjoncte, faut le dire, c'est le moment où tout d'un coup, il n'ose pas aller plus loin. Ouais. Il n'ose pas, bon. Y compris, pourquoi pas, jusqu'à la sortie de l'euro, qui aurait été, à mon avis, dans le cas de la Grèce, ou en tout cas de subvertir l'euro, c'est-à-dire de faire face au blocus financier, qui aurait été préférable, à mon avis, à la situation dans laquelle ils sont.
Bon, on va peut-être abandonner Tsipras pour un petit moment, parce qu'il y a Jeremy Corbyn qui, en Grande-Bretagne, a pris la tête des travaillistes, un Labour Party qui n'a réussi finalement à prendre le pouvoir que parce que Tony Blair, j'en reviens toujours à la même idée, l'a ramené au centre, Eddie Fougier.
Le problème de la gauche de gouvernement, pour ne pas avoir de connotation polémique. Depuis les années 80, depuis l'ère Thatcher-Reagan, c'est qu'elle se retrouve dans une situation où il y a une domination des idées libérales ou conservatrices et d'un cadre à la fois institutionnel et puis l'ouverture des frontières, qui font que si on mène une politique classique dite keynésienne, celle que prône Jeremy Corbyn, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas que les politiques libérales fonctionnent, mais si vous voulez attirer des investisseurs, c'est pas nécessairement la bonne politique à mener. Donc, Tony Blair, à l'époque Bill Clinton, avait essayé de réfléchir à ce qu'ils appelaient une troisième voie, c'est-à-dire on conserve les je dirais, l'esprit progressiste de solidarité, d'égalité, plutôt d'égalité des chances que l'égalité au sens égalitariste du terme, mais on adapte les moyens pour parvenir à ces fins, avec effectivement une politique qu'on peut qualifier de libéral ou néolibéral. Bon, je dirais que la gauche du gouvernement n'est pas sortie de ce dilemme. C'est-à-dire, effectivement, soit on adopte une politique qu'on va qualifier de social-libérale, soit, effectivement, on est un peu bloqué dans l'opposition. Donc là, on a eu, avec Tony Blair, Gordon Brown, cette politique plutôt centriste, libéral, social-libéral, tout ce que vous voulez, qui a en partie fonctionné, parce que l'image de Tony Blair s'est dégradée, plus sur la question irakienne que et sur sans doute le développement aussi des inégalités et de la précarité, mais sur le plan économique, ça a en partie fonctionné. Mais aujourd'hui, le Labour dans l'opposition se retrouve dans une situation où effectivement, le message centriste ne correspond plus nécessairement à ce qu'ils ont envie, parce que ce qui est assez intéressant dans le mode d'élection, c'est l'arrivée aussi d'un certain nombre de nouveaux électeurs, notamment de jeunes qui n'ont pas connu la période Thatcher, qui n'ont pas connu la période Old Labour, et qui entendent mener une politique, faire de la politique autrement, parce que c'est aussi ça le message de Corbyn.
Alors on peut se demander justement si cette vision qu'a Corbyn d'une vision du monde basée, on va dire, sur l'empathie, sur la coopération plutôt que sur la compétition et l'ambition, a une chance d'accéder au pouvoir en Grande-Bretagne, quand même réputée pour, je dirais, son pragmatisme politique.
Oui, enfin.
Et le pragmatisme est plutôt libéral aujourd'hui.
Non. Je crois que ça, c'est ce que les médias nous donnent à voir. Vous savez, il y a toujours eu l'envers du décor par rapport au thatchérisme et au blairisme. Moi, je partage pas votre opinion. Je pense que le social-libéralisme a échoué parce qu'à partir du moment où en réalité il faisait la même chose que la droite, au bout d'un moment, il devient inutile, ou en tout cas, il devient inutile comme politique alternative. Bon. Donc c'est un projet aussi qui a échoué. Je pense que c'est de ça dont il est question. Mais l'envers du décor en Grande-Bretagne, c'est une pauvreté absolument considérable. C'est des travailleurs pauvres, comme en Allemagne d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, soit ça part dans une situation de désespoir, d'abstention massive, comme on a dans la plupart des pays européens, soit il y a quelque chose, hein, voilà, un événement qui fait que tout d'un coup ils reprennent espoir. Je vous fais remarquer que c'est pas venu de n'importe où. Moi, ce que j'observe, c'est que par exemple, il y a eu l'ouverture du Parti travailliste avec des adhésions vraiment pas cher, qui ont permis ce que nous on propose dans nos pays, avec des fois des formes différentes, mais l'implication citoyenne. Corbyn gagne parce que le Labour est obligé de s'ouvrir, et notamment à des gens qui viennent des milieux populaires et qui tout d'un coup donnent une toute autre image que les sociaux-libéraux qui se succédaient depuis des années. Donc l'implication citoyenne, c'est la clé de la question qui nous est posée, et de ce point de vue-là, Corbyn l'incarne comme Podemos l'incarne d'une autre manière, je dirais, en Espagne, et comme nous devons, c'est l'enjeu qui se pose pour ce que nous représentons et que nous n'avons pas su suffisamment représenter depuis 2012, l'incarner en France, c'est la clé. La solution, c'est le peuple. Voilà. Quand vous avez les marchés qui estiment qu'ils peuvent imposer leur diktat et la souveraineté en réalité sur les peuples, eh bien, à l'inverse, il faut absolument s'appuyer sur les peuples, et la course de vitesse, de ce point de vue-là, avec l'extrême droite, est évidente, parce que ce que nous proposons, c'est une alternative qui est totalement inverse, et je crois que ça va être les enjeux des 10 ans à venir. Oui. Voilà. J'observe avec plaisir que les signaux positifs qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, de Grèce, et j'espère bientôt de France, vous l'avez dit, d'Irlande, c'est important, effectivement, sonneront peut-être le réveil et un retour de gauche. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer.
On n'a quasiment pas le temps de finir. J'aurais aimé vous faire conclure, Eddy Fougé. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y aurait une recette commune, alors vraiment en quelques secondes, une façon de faire, un comportement pour s'imposer auprès du public quand on est un dirigeant de la gauche radicale en Europe, à partir des exemples qu'on a vu,
je suis pas conseiller ni en communication ni en stratégie politique. Moi, je me méfie, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Coquerel, de ce grand clivage entre l'accaparement du peuple entre l'extrême droite et la gauche réelle ou la gauche radicale. Moi, je suis persuadé que la société est en train de se reprendre en main avec beaucoup une auto-organisation de cette société, et malheureusement pour les partis politiques, mais assez éloigné du monde politique.
Bon. Merci à tous les deux de vos réflexions.
On ne peut pas en dire plus. Implication citoyenne.
Allez.
La clé.
Eddy Fougé, politologue, chercheur à l'IRIS, Éric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche. Merci à tous les deux. Merci également à Florence Ponce et à Jean-Philippe Thury qui ont préparé et réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site internet. Demain, on parle rugby. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.